Je vous invite à vous tourner dans le prophète Amos, au chapitre 7. On va voir 5 visions de jugement. Si vous avez besoin de Bible, n'hésitez pas à lever la main. 5 visions de jugement données à ce prophète Amos. On va reparler de son arrière-plan dans ce chapitre. On va voir 3 visions pour commencer. Je lis à partir du verset 1 du chapitre 7. Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit « Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. » L'Éternel l'a regretté. « Cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. » Une autre vision, vision d'un feu. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé cette vision. » Le Seigneur, l'Éternel, proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévoré le territoire. J'ai dit, Seigneur, Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur, l'Éternel. Posons sur ces 2 premières visions. Le prophète Amos reçoit quelque chose qu'il visualise dans son fort intérieur, dans les yeux de son cœur. Et la première de ces visions, c'est une vision de sauterelle. On a parlé longuement avec le prophète Joël de ces cataclysmes que représentent les nuages de sauterelles qui viennent dévorer les récoltes et qui peuvent vraiment tout nettoyer comme du karcher. Il ne reste plus rien après. Et donc, on se souvient que le prophète est à Bethel, la ville où se trouvait le sanctuaire du royaume du Nord, qui n'était pas un sanctuaire reconnu par Dieu. Et il annonçait d'abord des jugements sur des villes qui étaient non juive autour d'Israël et de Juda. Et puis il se focalise sur Juda et puis carrément sur Israël. Et il leur explique, il dit donc au responsable du culte, le prêtre Amatsia, qui était comme leur grand prêtre, bien que ce ne soit pas son titre officiel, c'était le prêtre royal qui présidait à une fausse religion. Il leur dit, voilà, le Seigneur m'a donné une vision, il y a des sauterelles qui vont arriver. Il est question du regain qui commence à pousser. En fait, il y avait 2 récoltes. La première récolte, elle était donnée au roi comme en forme de taxe, d'impôt. Et il y avait une seconde récolte qui arrivait un peu plus tard, qui normalement nourrissait le peuple. Mais s'il y a des sauterelles qui viennent se servir et tout manger, à ce moment-là, il n'y a plus rien à manger pour le peuple. Et elle dévorait entièrement l'herbe de la terre. Donc il a cette vision. Et des fois, le Seigneur peut vous parler aussi, donner une vision. Ça peut être une image qui vous vient à l'esprit. Des fois, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais des fois, il faut avoir le courage de partager cette vision avec les gens qui sont autour de vous. Parce que si ça n'a pas de sens pour vous, des fois, ça peut être la réponse à des recherches, des questions que les gens se posent quant à des décisions, quant à des endroits où aller ou des vocations à embrasser. Mais toujours est-il qu'il voyait ces sauterelles qui mangeaient tout. Et là, il prie. Il demande à Dieu, il implore la clémence de Dieu, pardonne, Seigneur éternel. Et puis il dit, regarde Jacob, il utilise le terme du nom de, avant que Jacob ne devienne Israël, mais il dit, il est tout petit, c'est un tout petit peuple. Comment est-ce qu'il va subsister? Et là, il y a cette réponse surprenante, l'Éternel l'a regretté, et c'est un peu comme si Dieu décide de changer d'avis. Il fait ça en réponse aux prières. Alors, est-ce que ça attaque la souveraineté de Dieu? Non, en fait, Dieu veut toujours bénir, Dieu veut toujours pardonner, Dieu veut toujours le meilleur pour nous. Mais des fois, il est obligé de nous laisser passer par des épreuves et il leur dit, voilà, cette vision, je ne veux pas que ça se passe, Seigneur. Et plutôt, Amos dit au Seigneur, évite ça, évite-leur ça. Et c'est comme si Dieu dit, ok, on va pas en arriver jusque-là. Et puis la vision du feu, c'est une autre vision qui lui vient à l'esprit. C'est un feu qui dévore tout, qui dévore le territoire. Et là aussi, Amos implore le Seigneur, pardonne-leur, comment est-ce qu'ils peuvent subsister si ce feu se développe? Et là, encore une fois, Dieu regrette. Alors, c'est un anthropomorphisme, c'est-à-dire on attribue à Dieu des actions qui, normalement, sont le propre de l'homme, c'est-à-dire d'avoir du regret. Mais Dieu n'a pas de regret. Dieu répond en même temps aux prières qui lui sont adressées. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie bien souvent, c'est qu'on peut demander à Dieu des choses qui paraissent impossibles, des choses qui sont inévitables. Dieu peut intervenir. Et on doit adresser nos prières à Dieu avec cette conviction que Dieu peut changer les choses. Seigneur, provoque un réveil en France. Est-ce que on doit prier comme si tout dépendait de nos prières? Et après, laisser Dieu agir comme si, parce que tout dépend de lui. Et on le sait tous, des fois il donne une prière, une réponse favorable, des fois il ne répond pas, des fois c'est plus longtemps ou d'une autre façon de celle qu'on attendait. On prie pour quelqu'un qui est malade et la personne n'est pas guérie miraculeusement, mais bien souvent ça va être à travers un traitement que la personne va être guérie. Donc Dieu répond et il a toujours le désir de nous bénir, le désir de ne pas se montrer cruel. La troisième vision, la vision d'un niveau ou d'un fil à plomb. Vous savez que quand on construit un bâtiment, pour être sûr qu'il est d'aplomb, on utilise le fil à plomb. Peut-être que vous n'avez jamais fait le rapprochement. Quelque chose qui est d'aplomb, ça veut dire que quand on met un fil à plomb, qu'est-ce que c'est qu'un fil à plomb? C'est simplement une ficelle à laquelle on attache un poids et la gravité va l'attirer vers le centre de la Terre, si bien que, comme la Terre est grande et large, quand on n'est pas très loin d'un endroit à l'autre, à quelques dizaines de mètres, on a l'impression que les droites sont parallèles. C'est toujours intéressant de voir des fois des immeubles. Quand on est en Amérique, on voit les gratte-ciels, ou même ici, quand on voit des bâtiments qui sont les uns à côté des autres, et on voit en fait que c'est vraiment parallèle. Et c'est une bonne chose, c'est une garantie de solidité. Et le Seigneur, souvent, et ça c'est une des illustrations bien connues dans la Bible, le Seigneur, il se tenait sur un mur. Il m'a envoyé cette vision, le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban, verset 7, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, que vois-tu Amos? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur a dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés, les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je m'élèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. Donc dans ce cas-là, l'Éternel mesure, donc il regarde si il a cette vision. J'aime bien d'ailleurs la simplicité de Amos. Aujourd'hui, si le Seigneur posait la question à un pasteur ou à un étudiant en théologie en disant « Que vois-tu, Pierre ?» Je dirais « Je vois quelque chose qui montre que l'équilibre spirituel de la ville de Nice n'est pas en accord avec les desseins de ta volonté bienveillante. » Non, il dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Ben, « Je vois un niveau. » Je vois un fil à plomb. Encore une fois, les prophètes, quand ils nous parlent, ce n'est pas pour que ce soit mystérieux et bizarre, ce niveau. Il dit, le Seigneur explique lui-même, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple, et c'est là qu'il va s'apercevoir qu'en fait, moralement, le peuple n'est pas droit. Le peuple est dans la corruption, le peuple est dans le péché, le peuple n'est pas dans la sainteté. Et là, en mesurant comme ça, il dit, je ne lui pardonnerai plus. Et là, il annonce qu'il va dévaster les hauts lieux d'Isaac. C'est une référence aux frères de Jacob. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. Il annonce son jugement et vous remarquerez que Amos n'essaye même pas de demander le pardon parce qu'il y a vraiment un problème de ne pas être d'aplomb. Où il a déjà demandé deux fois le pardon et peut-être qu'il n'ose plus demander le pardon une troisième fois. L'ennemi aime bien nous rappeler que ça fait déjà deux fois que le Seigneur nous pardonne et qu'il vaudrait mieux pas lui demander une troisième fois encore. Parce que il dit des choses qui sont vraies bien souvent, mais il dit des mensonges quant aux conséquences et quant à l'amour de Dieu. Souvent on demande pardon à Dieu pour un péché, on se sent pardonné, on lavé, on repart. Puis on retombe dans un même péché et on est un peu moins sûr qu'on est pardonné, mais on dit bon, le Seigneur pardonne, m'a pardonné, on repart. Et la troisième fois, on rechute et là il y a Satan qui nous dit hé, là je crois que tu as exagéré, là c'est fini, c'est plus possible, il ne faudrait pas prendre le bon Dieu pour des canards sauvages, non, c'est pas l'expression du tout, mais il dirait, Dieu en a assez de toi, va te cacher loin de lui, tu as péché. Et je sais pas si c'est un peu ça que fait Amos, mais il n'ose plus, ou il ne demande plus pardon, il ne demande plus à Dieu de pardonner son peuple. Et puis, avant notre vision, on voit que, encore une fois, il annonce cela à des gens réunis dans un tabernacle, dans un sanctuaire plutôt. Et on va lire, on l'a déjà lu pour présenter la personne de Amos, verset 10. Alors Amatsia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, « Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. » En effet, voici ce que dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos, visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia, je ne suis pas prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit « Va prophétiser à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis « Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer. » Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de son pays. » Encore une fois, le prêtre de Bethel qui travaillait pour Jéroboam, qui avait établi ce sanctuaire en dehors de Jérusalem pour éviter que son peuple ne revienne à Jérusalem et retombe sous la coupe normale du pays de Juda. Le roi d'Israël avait fait ce culte, il avait mis en place un faux culte, et le prêtre Amatsia fait dire au roi Jéroboam le deuxième: Amos conspire contre toi. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. Il dit que tu vas mourir par l'épée en Israël, tu vas être exilé loin de ton pays. En fait, on n'a pas connaissance de ce que Amos ait prononcé ces paroles. Du moins, ça n'a pas été rapporté. Et on peut supposer que devant les paroles de ces visions partagées, que le prêtre noircit le tableau en espérant que le prophète Amos va être persécuté par le roi. Et il lui dit même, verset 12, « Fiche le camp de chez nous, va prophétiser chez toi, parce qu'il était du royaume du sud, du royaume de Juda, à Jérusalem. » Il dit « Va là-bas, mais pas ici. Ici, c'est un sanctuaire du roi. » Une maison royale. En fait, il est beaucoup plus important d'avoir une maison de Dieu et une maison et un sanctuaire divin, un sanctuaire de Dieu. Mais Amatsia se réclame de cette royauté pour impressionner Amos. Et Amos, on l'a déjà lu ce passage, en fait il dit: moi je suis pas un professionnel, ne m'en voulez pas. Moi, j'étais tranquillement, moi je suis un berger et je fais pousser des figues. Et tout ce que je faisais, moi j'étais tranquille, j'avais rien demandé à personne. Et le Seigneur m'a pris pendant que je travaillais pour me dire: va prophétiser à mon peuple Israël. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a dit qu'en fait, Dieu utilise des gens ordinaires. Dans notre schéma occidental classique, on pense qu'il faut d'abord avoir obtenu un diplôme de théologie avant d'envisager d'être missionnaire ou d'être pasteur. C'est dit nulle part. Il y avait bien à l'époque des écoles des fils de prophètes. On en parle dans le prophète Élisée et le prophète Élie, il en est question. Mais ce qui compte avant la formation, c'est l'appel. Si Dieu vous appelle, il faut lui répondre. Et si Dieu vous appelle, il va vous qualifier. Mais si vous qualifiez avant d'avoir été appelé, il est possible que vous ne soyez jamais appelé. Et malheureusement, c'est ce qui se produit dans pas mal de séminaires, des gens brillants parce qu'ils font des bonnes études, ils ont peut-être un arrière-plan chrétien familial et se disent: mon grand-père était pasteur, je vais aller à Vaux-sur-Seine faire des études. Mais en fait, il n'y a pas eu d'appel. Et on peut être brillant intellectuellement, mais ne pas avoir l'appel d'être pasteur ou missionnaire ou serviteur d'une façon particulière. Et ce qui compte, et j'en ai déjà parlé, c'est l'appel de Dieu. Est-ce que vous vous sentez appelé par Dieu? Et l'appel, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de race, c'est Dieu qui dessine souverainement et il peut vous prendre à un âge tardif, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous ayez grandi en France, que vous n'ayez pas grandi en France, pour le servir en France, pour le servir au bout du monde, pour le servir à Beijing, pour le servir en Iran, il est souverain. Et ce qui compte, c'est son appel. Parce que quand on a son appel, on ne peut pas se taire. On a le besoin de dire. Et si on n'a pas le besoin de dire, si on n'éprouve pas cette passion de partager avec les gens dans la rue qui a un Dieu qui les aime, de partager que la parole est pleine de sens, qu'elle est la vérité, à ce moment-là, ça ne va pas produire de fruits. Ce n'est pas nécessairement mauvais, ce n'est pas nécessairement un péché, mais vous voulez la bénédiction de Dieu sur votre ministère, et donc ça commence par se sentir, avoir la conviction, autant qu'on puisse l'avoir, d'être appelé par lui. Et donc Amos dit, moi je ne peux pas m'empêcher de parler, voilà ce que le prophète, ce que Dieu m'a dit, c'est toi qui dis de ne pas prophétiser contre Israël, alors qu'il y a besoin de les rappeler à l'ordre, je te dis ce que m'a dit l'Éternel, ta femme, il va lui arriver des bricoles, elle va devoir se prostituer, tes fils, tes filles vont être massacrés, il va y avoir des invasions, ton champ va être partagé, il va disparaître, et toi, tu vas mourir en exil. Et Israël sera exilé loin de son pays. Ça, c'est une petite parenthèse qu'il dit lorsqu'il reçoit ses visions et qu'il les partage. Parce que l'autre essayait de le faire taire, il lui dit « Non, désolé, je ne peux pas me taire. » Et puis il lui dit « Voilà, j'en ai une autre encore. Une vision d'une corbeille de fruits. » Et encore une fois, Amos, c'était un paysan qui faisait pousser des arbres, les sycomores qui donnent des figues de, apparemment pas de première qualité. Et puis, il était éleveur de petits bétails, de brebis. Et donc, il utilise des termes simples. Là, sa vision, c'est une corbeille de fruits. Pour moi, c'est toujours un grand moment dans l'année lorsqu'on trouve enfin des bonnes nectarines. Des nectarines, on peut croquer dedans et le noyau se... Ça ne divise pas en deux avec des petits vers dedans ou des choses. Un bon fruit d'été. Les fruits de l'été, c'est maintenant. Il y a une saison très courte. Et eux-mêmes, si vous achetez trop de fruits d'été, vous les gardez dans une corbeille et vous voyez que ça commence à... Tiens, il y avait du poil vert sur ces pêches. C'est le moisi qui commence à s'installer, qui... Les fruits ne tiennent pas longtemps avec la chaleur. Et là, c'est la même façon, c'est une corbeille de fruits d'été. C'est une corbeille d'été. Et il a dit, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision, c'était une corbeille de fruits d'été en fait. Il a dit, que vois-tu Amos ? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Là encore, très simple, il n'a pas commencé à dire « Je vois la corruption qui s'installe dans le cœur de mes contemporains, j'appelle un réveil. » Non, il dit « Je vois une corbeille de fruits d'été qui sont bons maintenant, mais qui sont presque mûrs, qui sont déjà mûrs. » Ce n'est pas rendu en français, c'est difficile, mais en hébreu, en fait, il y a un jeu de mots. Certains aiment bien les jeux de mots, j'en fais partie. Ceux qui n'aiment pas les jeux de mots les détestent en général. Ils ont du mal à les tolérer. Sachez que la Bible est pleine de jeux de mots. Pourquoi des jeux de mots ? Parce que c'est une façon de se rappeler des choses. Par exemple, la demi-finale, ça va être Portu contre Galles. Portugal. Maintenant, vous en rappellerez. Portugal. C'est bête, c'est ridicule, mais... Et la même façon, là, Dieu dit, qu'est-ce que tu vois ? Quand il dit une corbeille de fruits, le mot, c'est keïtz. Et puis, quand le Seigneur dit la fin, c'est le mot keïtz. Il dit, qu'est-ce que tu vois ? Je vois keïtz. Et Dieu dit, moi, je vois keïtz. Ça, on le rate, mais pour les Hébreux qui recevaient ce message, c'était quelque chose qui disait, après chaque fois qu'ils voyaient des fruits, oh là là, c'est la fin qui arrive. Portugal. C'est fini. Que vois-tu, Amos ? J'ai répondu, une corbeille de fruits, c'est l'Éternel. La fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Et puis là, il commence à décrire, ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Donc c'est très graphique. Il décrit l'invasion, les meurtres, la terrible invasion des Assyriens. Les chants vont être remplacés par des cris de douleur, des gémissements. Écoutez ceci, verset 4, vous qui dévorez le pauvre et qui ruinez les malheureux du pays, vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé afin que nous puissions vendre du blé? Quand finira le sabbat afin que nous puissions ouvrir les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmentons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel, verset 7, l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le Nil, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Ce jour-là, déclare le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai de sacs toutes les tailles et je raserai toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique et sa fin sera comme un jour d'amertume. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erreront alors d'une mer à l'autre, du nord à l'est. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes gens mourront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Vive ton Dieu, Dan, vive le culte de Beersheba », tomberont et ne se relèveront plus. Terrible vision de destruction, de massacre. Et il donne les raisons pour lesquelles le fil à plomb montrait qu'ils étaient tordus, qu'ils n'étaient pas droits. Ils profitaient des pauvres, ils ruinaient les malheureux. Ce qui les préoccupait, ce n'était pas leur relation avec Dieu, c'était leur commerce. Ils disaient, quand est-ce que les fêtes les gênaient? Le début du mois, c'était un mois, ils ne pouvaient pas pratiquer le commerce, mais ils disaient, quand est-ce que ça? Pourvu que ça passe vite. Je n'aime pas le dimanche parce qu'on ne peut pas faire du commerce. C'est en train de changer dans notre pays. Mais il y a un temps où les magasins étaient fermés le dimanche. La tendance, parce que notre pays s'éloigne de Dieu, c'est de plus respecter rien. Moi-même, lorsque je suis arrivé en France, on avait un culte le dimanche, mais c'était aussi le matin où il y avait les matchs de foot pour les enfants. Donc c'est Nancy qui emmenait les enfants au match de foot. On s'est éloigné du respect de Dieu, du respect d'un jour de sabbat ou d'un respect du dimanche. Maintenant, tout ce qui compte, c'est de pouvoir faire du commerce. Et là, c'était déjà le cas. Vous avez hâte que le sabbat soit fini pour qu'ils puissent faire du commerce en ouvrant les greniers. Et puis, ils trichaient. Ils donnaient moins, au lieu d'un litre de graines, ils en donnaient que 90 centilitres. Et puis, ils montaient les prix. Ils falsifiaient les balances. Ils appuyaient avec leurs doigts lorsqu'ils pesaient quelque chose. Toujours intéressant, j'étais fasciné en physique, en seconde, de savoir qu'en fait, suivant la forme d'un récipient, le même poids d'eau pouvait peser plus ou moins sur une balance. Alors ça, c'est réglementé maintenant et ça ne se fait plus. Mais quand j'étais gosse, on allait chercher le lait avec un petit pot à lait et on aurait pu tricher sur la forme du pot de lait pour que le lait coûte plus cher. Ou rapporte plus à la laitière. Et puis, ils achetaient les faibles pour de l'argent, les pauvres pour une paire de sandales, ils exploitaient et ils vendaient, au lieu de vendre du blé, ils vendaient le son. Ils gardaient les impuretés du blé et ils vendaient tout. Un peu comme quand vous achetez des tomates et qu'on vous vend les branches avec. Vous avez remarqué ça? Il y en a qui enlèvent les branches. Toujours est-il que c'était leur mentalité, c'était l'égoïsme. Moi d'abord, peu importe que des personnes souffraient. Et il promet des cataclysmes, peut-être un tremblement de terre. Le pays tout entier montera comme le Nil et se soulèvera, s'affaissera. Les crues du Nil étaient bien connues, qui laissaient aussi des bonnes choses, du limon. Et puis il y a cette prophétie, je ferai coucher le soleil à midi, j'obscurcirai la terre en plein jour. Certains voient là une prophétie du jour de la crucifixion, peut-être, rien n'est dit. Il y a des recherches qui montrent qu'il y a eu des éclipses aussi à ces périodes, des éclipses de soleil. Ce qui est intéressant avec la régularité astronomique créée par Dieu, c'est qu'on peut aujourd'hui rechercher les dates précises et faire des rapprochements. Donc certains trouvent que ça peut être rattaché à une éclipse de soleil, mais qui était une prédiction de Amos. Et donc ça allait être l'amertume, ça allait être le deuil. Et puis, verset 11, il parle d'une famine. Et là, dans le cadre de l'envahissement par des étrangers, par les Assyriens, de la capture et l'envoi en captivité du peuple d'Israël, on pense qu'il ne va plus y avoir de la famine, ça va être une famine de physique, de pain, d'eau. Mais Dieu, en fait, il parle d'une famine spirituelle, la faim, la soif d'entendre des paroles de l'Éternel. Et les gens chercheraient la parole de l'Éternel et ne la trouveraient pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même les non-chrétiens, lorsque vous leur citez des passages bibliques, ça leur fait du bien. Je me souviens, il y a un an ou deux, on avait commencé un groupe de maison dans lequel on lisait la parole, et il y avait une personne qu'on avait réussi à inviter qui n'était pas vraiment chrétienne. Et on lisait un passage et on se demandait qu'est-ce que ce passage vous dit, comment le Seigneur vous parle à travers ce passage. Et on était un peu tous comme, au lieu d'être comme Amos, à dire bah, c'est beau, c'est la Bible. On disait, bah, ça, moi ça me parle que dans certaines situations, il faut demander pardon, mais si le pardon n'est pas accordé, il faut continuer de pardonner. Et puis on a demandé à cette personne, qu'est-ce que ça lui disait ce passage. Et peut-être tu t'en souviens, c'était Jocelyne, et elle disait, qu'est-ce que c'est beau. C'était un passage qui parlait de l'amour de Dieu, de son pardon. Et souvent, nous, on oublie. On connaît trop bien les passages, on connaît la bonté de Dieu. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'un être tout-puissant qui les aime, la parole, il recherche cette parole, sans le savoir. D'où le succès, là aussi c'est quelque chose que je vous conseille, à Noël, ou à la fin de l'année, on vous invite à acheter des calendriers de la bonne semence. Et c'est impressionnant le nombre de personnes non chrétiennes qui, une fois qu'elles ont eu entre les mains un tel calendrier, demandent à leurs amis qui leur ont donné un calendrier. Parce qu'il y a soif, il y a une soif de cette vérité. Elle fait du bien. Et moi, quand j'ai été touché, je me rappelle, je vous l'ai dit, c'était ce livre sur les promesses de Dieu. Rien que ces promesses, ça redonne l'espoir, ça fait du bien. Et donc, il va y avoir, et c'est terrible, et nous, on a la possibilité d'avoir des Bibles en 55 versions. Je parie qu'en Chine aussi, il y a plusieurs versions de la Bible. On n'a pas à souffrir de cette famine de la parole. Mais est-ce qu'on en profite vraiment? Et je me parle le premier, est-ce que ma première réaction c'est de dire, tiens, je vais me dévorer la parole de Dieu. C'est Jérémie qui disait, tes paroles furent trouvées et elles devinrent pour moi la joie de mon cœur. Pouvoir lire la parole de Dieu, de savoir que Jésus nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Toutes ces choses-là, ça fait du bien et Dieu merci, pour l'instant, nous avons accès à cette parole. Il y a des pays où il est très difficile d'avoir la parole. On a des amis très proches qui ont passé déjà 20 ans, 25 ans de leur vie à traduire seulement le Nouveau Testament en tibétain, en abdo-tibétain. Ils sont en Chine, dans une région lointaine, au bout du monde. Et ils ont réussi, ils nous ont envoyé une photo de la parole de Dieu dans la langue des gens qui les entourent et qui la dévorent. Et puis, il y a une dernière vision, la cinquième vision qui est donnée à Amos et au chapitre 9. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel, il a dit « Frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés, et brise-les sur leurs têtes à tous. Je ferai mourir le reste par l'épée, aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, il n'y aura parmi eux aucun rescapé. » S'il pénètre dans le séjour des morts, ma main, les en arrachera. S'il monte au ciel, je les en ferai descendre. S'il me cache au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les attraperai. S'il se cache à mes regards, dans le fond de la mer, j'ordonnerai aux serpents de les y mordre. S'ils sont emmenés en déportation par leurs ennemis, j'ordonnerai à l'épée de les y faire mourir. Je dirigerai mes regards vers eux pour leur faire du mal et non du bien. Waouh ! Le Seigneur, l'Éternel, verset 5, le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, touche la terre et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle se soulève tout entière comme le Nil et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Il a construit son palais dans le ciel. Et fondé sa voûte sur la terre, il appelle l'eau de la mer et la verse à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Là, c'est une vision terrible. On peut imaginer son auditoire, le grand prêtre Amatsia qui doit recevoir ça après avoir entendu qu'il allait périr par l'épée, que ses enfants seraient morts, seraient tués. Juste avant, il avait été dit que les jeunes gens mourraient de soif, que tous les cultes installés par l'homme, celui de Adan, la ville tout au nord, à Beersheba, la ville tout au sud, tous ces faux cultes ne dureraient pas. Et là, il a cette vision de Dieu en colère, en sainte colère, car Dieu n'est jamais dans une colère pécheresse. Et c'est lui qui commande presque comme à une équipe de démolition de détruire tout le temple, frappe ces faux temples, frappe les chapiteaux, que les seuils soient ébranlés et brise-les sur leur tête. Et il dit que personne ne pourra échapper à sa colère, qu'il monte au ciel, qu'il se cache au fond de la mer. Même s'ils vont dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. Ça rappelle le psaume 139 où David disait « Même si je vais au fond, au bout du monde, tu y seras. » Dieu est partout et on ne peut pas échapper à sa colère s'il la déclenche contre nous. Dans l'Apocalypse, il y a des passages qui font référence justement à des gens qui essayent de se cacher dans les montagnes, mais rien n'y fait. C'est une vision terrifiante. Qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est qu'il est bon de ne pas tarder à se repentir, de rechercher l'Éternel, de demander pardon dès qu'on réalise qu'on en a besoin. Il y a un moment où Dieu va aller jusqu'au bout de sa colère. Mais là, on va voir encore, n'êtes-vous pas, verset 7, n'êtes-vous pas pour moi comme des Éthiopiens israélites, déclare l'Éternel, des païens. L'Éternel, n'ai-je pas fait sortir d'Israël l'Égypte comme j'ai fait sortir les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Le Seigneur, l'Éternel, a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. les prophéties de Dieu se réalisent. Et on sait qu'après avoir détruit le royaume du Nord en l'an 722 avant Jésus-Christ, par les Assyriens, Dieu a conduit à la destruction de Jérusalem et du royaume du sud de Juda par les Babyloniens en l'an 586 avant Jésus-Christ. Et il a fallu attendre 1948 pour que le royaume, pour que l'État plutôt d'Israël soit reconstitué. Dieu a permis à cet État, à cette entité de revoir le jour. Dieu détruit, mais son cœur, c'est toujours de pardonner. Et avec Israël, il n'en a pas fini. Il a ce qu'on appelle des fois un reste, ou un, en anglais, the remnant. Quelques personnes qui vont revenir à lui, même parmi le peuple d'Israël. Et c'est là, s'il y a un mot que vous devez entourer dans votre Bible, c'est le mot « toutefois » qui arrive après « je le détruirai de la surface de la terre ». On n'a plus revu le royaume d'Israël, le royaume du Nord. Il a reconstitué en 1948 l'État d'Israël qui regroupe le Nord et le Sud. Après, il y a des questions, est-ce que c'est les peuplades, les mêmes tribus, est-ce qu'elles ont été perdues? Dieu ne perd personne. Toutefois, ce n'est pas entièrement que je détruirai la famille de Jacob, déclare l'Éternel. Car je donnerai mes ordres et je secourrai la communauté d'Israël parmi toutes les nations qu'on secoue avec le crible, avec un tamis, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent « le malheur n'approchera pas et il ne nous atteindra pas ». Il va s'occuper de ceux qui recherchent l'Éternel, même parmi son peuple d'Israël. Il ne va pas les détruire complètement. Il va leur faire subir des épreuves. Ils vont être secoués parmi toutes les nations, comme avec un tamis, et il va rester juste un reste, les plus gros, les plus solides. Et ceux qui vont passer à la trappe, pour ainsi dire, c'est ceux qui sont arrogants, ceux qui disent « le malheur n'approchera pas, il ne nous atteindra pas ». Et puis il nous dit « ce jour-là, je relèverai de sa chute la cabane de David ». Ce n'est pas la cabane au fond du jardin, c'est la cabane de David. Je réparerai ses brèches, je redresserai ses ruines et je la reconstruirai comme elle était autrefois. Alors ils posséderont le reste d'Édom et toutes les nations appelées de mon nom, déclare l'Éternel, celui qui fait tout cela. Vous savez que Dieu avait promis une descendance éternelle à David, la maison de David. Mais là, ça va tellement mal qu'il appelle ça, c'est plus une maison, c'est un cabanon. C'est une cabane au fond du jardin. Il dit, la cabane de David, je vais la relever. Je vais la réparer. Je vais la redresser de ses ruines. Je la reconstruirai comme elle était autrefois. Et toutes ces nations seront, avec toutes les nations appelées de mon nom, Je vais les restaurer. Ça, c'est une promesse, une vision à long terme. Je crois que c'est au-delà de ce qu'on connaît maintenant avec la nation d'Israël, qui pourtant c'est formidable quand on va en Israël. C'était un pays qui était infesté par les marécages, les moustiques, les bêtes. Un pays insalubre avant 1948. Les Israéliens en ont fait un pays exportateur de fruits, de légumes, de fleurs. Quand je voyageais là-bas, notre guide nous disait, Au matin, c'était au mois de février, mais il y avait déjà des superbes fruits, une grande variété de fruits. Et il disait ici, c'est pas des fruits qu'on mange, c'est des prophéties réalisées. Je trouvais que c'était une très belle expression. En plus, c'était délicieux. Et on voit ces champs, on voit ces cultures qui ont été mises en place. Dieu restaure. Alors là, encore une fois, je ne dis pas que l'État d'Israël aujourd'hui est l'Israël que Dieu est en train de reconstituer. Dieu a un peuple parmi les Israéliens. Et ce peuple, ce qu'on appellerait les Juifs messianiques, avec les nations, c'est-à-dire avec nous, les non-Juifs, on va former son Église. Il n'y a plus de séparation. C'est pour ça, toutes les nations, appelées de mon nom. Si vous vous réclamez comme étant chrétien, vous serez au bénéfice d'un royaume de 1000 ans sur terre et d'une éternité avec Dieu. Verset 13, « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur le semeur, où le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël. » C'est intéressant ces paroles. Hein, les déportés d'Israël. Pendant des siècles, le peuple juif a été dispersé à la surface de la terre jusqu'à cette reconstitution de l'État d'Israël. Je ramènerai les déportés de mon peuple, d'Israël. Ils reconstruiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel ton Dieu. Prophétie qu'on peut voir partiellement réalisée avec l'État d'Israël, sans toutefois assimiler la notion spirituelle de gens qui... Parce qu'il y a des Juifs qui ont une religion semblable à celle de Bethel, une religion de surface, mais Dieu est en train de se préparer un reste. Et avec tous les hommes qui le reconnaissent comme le Seigneur et Sauveur, Jésus va reconstituer un endroit merveilleux. Et là, on verra qu'il y aura la prospérité. Le verset 13 est frappant à ce sujet. Le laboureur va suivre de près le moissonneur. Ça veut dire qu'il y a une grande prospérité. Et à peine on a récolté, qu'on travaille déjà la terre, qu'on replante, le fruit arrive rapidement. Les vendangeurs viennent tout de suite après ceux qui ont semé les grains de raisin pour planter des vignes. Le vin nouveau ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. On voit que quand Dieu se met à agir, lorsqu'il met en œuvre la bénédiction et la restauration, il y a 4 choses qui arrivent. Les fruits arrivent rapidement. Et ça, c'est vrai aussi spirituellement. Tout ça, c'est physiquement, mais il y a bien sûr la dimension spirituelle. On se dit qu'on vit dans un pays déchristianisé. On vit dans une Europe qui a rejeté ses racines chrétiennes. Si Dieu suscite un réveil, s'il décide de bénir et de restaurer un royaume en Europe, en France, ça peut se passer très rapidement. Les fruits peuvent arriver très rapidement. Ou il n'y aura pas assez des évangélistes dans les rues et les pasteurs qui enseigneront la parole derrière. Il n'y aura pas le temps, ça va se bousculer au portail. Est-ce que vous y croyez à ça? Ou est-ce que vous vous dites, n'importe quoi, n'importe quoi. Les fruits, dans ces cas-là, arrivent dans des endroits inattendus. Là, c'est sur les montagnes. Le vin va couler des collines. Généralement, il y a quelques plantations sur des coteaux, des fois, mais plus souvent, c'est dans les plaines qu'on a des grands champs, des grandes vignes. Ça peut venir d'endroits inattendus. Là aussi, on se dit pour... Le Seigneur peut vous mettre à cœur d'avoir un ministère particulier, d'aller peut-être, il y a quelques années, on avait des personnes qui avaient eu ce fardeau, d'aller donner des Bibles en langage de l'Europe de l'Est aux prostituées qui travaillent malheureusement sur la promenade des Anglais. Et le Seigneur, si vous mettez ça à cœur, ça peut donner du fruit incroyable. Dans notre cas, ça s'est pas manifesté. On a quelques personnes qui ont été touchées, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Mais il y a aussi, lorsque Dieu agit, qu'il bénit, qu'il restaure, il va y avoir de la qualité. Vous voyez, ils vont pouvoir boire du bon vin, boire des bonnes récoltes. Et puis, une chose qui est intéressante aussi, c'est que quand des fois, les gens prient pour le réveil. Je me souviens, quand on était arrivé en France, on s'occupait d'un groupe qui priait pour le réveil avec ferveur. Mais quand on leur demandait de rester pour nettoyer la salle ou de venir très tôt le matin pour une réunion de prière, alors là, il y avait plus personne. Le réveil, souvent, dans certains milieux chrétiens, c'est vu un peu comme le tapis magique, le tapis persan, le tapis volant. On saute dessus et tout va bien là, c'est wow ! Non, là, il restait du travail à faire. Le travail était béni, mais ça restait du travail. Il y avait toujours des laboureurs, il y avait toujours des moissonneurs, des semeurs, des vendangeurs. Et nous aussi, lorsqu'on s'attend à l'action de Dieu, on doit savoir que Il nous appelle à participer activement. Et donc, je vous rappelle qu'on a besoin de volontaires pendant l'été pour aider avec les enfants. Oh, Pierre, c'est pas sympa, ça. Mais des fois, il faut mettre les choses. S'il y a besoin de faire le café, il y a besoin de gens qui mettent le café dans les petites manivelles, là, et qui... Il y a du travail pratique à faire. Et on est souvent prêt à... Oh Seigneur, j'irai au bout du monde. Appelle-moi à Beijing, Pékin, j'irai là-bas. Il vous dit, commence par servir où tu es. Commence par me glorifier où tu es. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit que malgré cette vision apocalyptique, cette destruction qui s'est passée et qui va, à l'époque de l'invasion des Assyriens et des Babyloniens, qui a dispersé à la surface de la terre le peuple de Dieu, cette vision apocalyptique, Dieu voit toujours la restauration. On n'est jamais trop loin pour être touché par Dieu. Vous n'êtes jamais trop loin pour revenir à Lui. Quelles que soient les choses que vous ayez, les choses sur votre conscience, vous pouvez demander pardon et revenir à Dieu. Lui faire confiance, c'est son désir. Il est comme le père du fils prodigue qui tous les matins allait voir sur la route pour voir si son fils n'allait pas revenir. Et là, Amos, ça fait près de presque 3000 ans, il nous montre le caractère de Dieu. Dieu doit punir parce que les gens de l'époque, son peuple, ont été trop loin. Ils le méprisent, ils l'ont rejeté. Mais son cœur, c'est pour qu'il y ait un reste, pour que des gens reviennent à lui. Et ça, c'est la grâce. Je disais en priant, en introduction, que la grâce, la loi est venue par Moïse. La loi, c'est si tu fais pas ça, si tu es pas droit, je te détruirai. Mais nous sommes au bénéfice de la grâce et de la vérité qui sont venues par Jésus-Christ. Et ça, c'est très important quand nous présentons l'Évangile. Nous vivons dans un monde païen, dans un monde impie, dans un monde qui glorifie le péché, quelque part. et nous avons un message d'espérance et de pardon. Mais souvent, en tant que chrétien, on peut s'enfermer dans nos églises et penser que le monde est parti trop loin et prier presque contre le monde. Nous devons prier pour le monde. Nous devons aimer. Dieu a tant aimé le monde, il a aimé tout le monde. Tous les hommes, toutes les femmes, quelle que soit leur profondeur d'engagement, de péché, il veut restaurer. Et c'est terrible lorsque l'Église passe aux yeux du monde comme quelque chose qui fait du jugement, qui juge les gens. On est contre l'homosexualité, mais on doit aimer et accueillir les homosexuels. On est contre le mariage pour tous, mais on doit pas, ou contre l'avortement, mais on ne doit pas aller tuer les docteurs qui... C'est pas comme ça qu'on va les convaincre. J'ai un pasteur, le responsable de Calvary Chapel maintenant, qui était en Israël il n'y a pas longtemps. Il était frappé de réaliser qu'en fait, lorsqu'il était en Galilée, là où Jésus est venu exercer son ministère parmi les hommes, c'était une région qui s'appelle la région des 10 villes ou des 10 villages, Décapolis, et c'était une région qui était connue pour la perversité, le péché qui abondait, des sacrifices d'enfants. Il y avait vraiment un monde horrible. Et pourtant, c'est là que Jésus a choisi d'arriver. Parce qu'il avait un message d'amour, d'espérance et de changement. Si on veut que notre société change, c'est pas en restant enfermé dans nos églises et en disant « Oh là là !» C'est terrible tout ce qui se passe au dehors. C'est en allant parler aux gens. Nous sommes appelés à être dans le monde, mais pas du monde. Si le bateau n'est pas dans l'eau, ce n'est pas un bateau. Si l'eau est dans le bateau n'est plus un bateau. Il coule. Il y en a qui me regardent. De quoi on parle là ? Nous devons être dans le monde, au contact des non-croyants, de ceux qui pêchent, de ceux qui ont soif de la parole de Dieu, quelque part, mais qui ne le savent pas encore. Et Dieu, avec sa vérité et sa grâce, la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas besoin de la grâce de Dieu ? Qu'il lève la main et soit zappé par le Seigneur ? Moi, le premier, j'ai besoin de sa grâce et besoin de sa vérité. Prions. Seigneur, merci parce que par ce prophète, tu nous interpelles, tu nous montres avec ces visions que tu es prêt à pardonner, qu'il arrive un moment où tu dois, dans ta logique de Père bien aimant et mais parfaitement saint, tu dois punir. Mais Seigneur, tu es toujours là à nous tendre la perche, à nous demander de revenir à toi. Seigneur, s'il y en a parmi nous qui sont loin de toi, je te demande de les toucher pour qu'ils reviennent à toi. Seigneur, donne-nous d'aller vers ceux du monde, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore avec ton pardon, ta grâce, Seigneur. Qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui les aime et que, quels que soient les mensonges de l'ennemi, disant que ça fait trop longtemps qu'il nous pardonne, tu veux encore pardonner une fois, Seigneur, et encore une autre fois. Tu veux nos cœurs, Seigneur, nous voulons te les offrir ce matin. Sois béni, Père, pour ta grâce, pour ta vérité, pour Jésus-Christ. Amen.